Et là, franchement, c'était le vide. Je disais, Seigneur, je passais du temps avec lui. Et puis voilà, je pense que comme toutes les mamans qui se reconnaîtront dans ce que je dis, ma semaine a démarré sur les chapeaux de roue. Il y en a plusieurs qui ont été témoins de mon arrivée fracassante à l'école lundi matin. Voilà, c'était vraiment une semaine remplie de défis. Mais vous savez quoi? Eh bien, quand je suis faible, c'est là où la puissance de Dieu, la force de Dieu se manifeste. Et j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne à toi. Tu m'utilises tel que je suis. Et voilà, c'est vraiment, je viens à vous ce matin avec voilà, des choses que je crois que le Seigneur a déposées dans mon cœur. Et particulièrement, je voulais juste commencer en vous disant, j'avais vraiment cette pensée ce matin alors que je remettais ça encore dans la prière. Comme le peuple d'Israël dans le désert, le Seigneur y donnait de la manne fraîche chaque matin. Et ce matin, c'est de la manne fraîche. Au début, j'étais là, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'apporte un message que j'ai apporté il y a plusieurs années? Et non, le Seigneur m'a dit, non, c'est quelque chose de frais, de la manne fraîche. Les Israélites, ils ne gardaient pas, Dieu leur avait dit, la manne de la veille, vous la jetez. D'ailleurs, elle pourrissait, donc ils ne pouvaient même pas, même s'ils la gardaient, ils ne pouvaient même pas la manger parce qu'elle était pourrie le lendemain matin. Parce qu'il voulait leur donner de la manne fraîche chaque matin. Et ce matin encore, je sens que c'est ça que le Seigneur veut faire à travers moi. Dans nos cœurs, il veut vous donner à chacun de la manne fraîche. Quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Même, j'ai dit, Seigneur, j'ai préparé des notes, mais même s'il faut que je parte dans une autre direction, je vais être sensible à ton esprit. Alors, on va commencer simplement en priant. Seigneur, merci pour ta manne qui est fraîche et que tu veux déposer dans nos cœurs ce matin. Et Seigneur, je prie que nos cœurs soient comme une terre fertile, une terre qui ait soif et qui soit prête à recevoir cette manne fraîche que tu veux donner à chacun d'entre nous ce matin. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as déjà parlé ce matin à travers ces chants, à travers les paroles, à travers ce qui a été apporté. Et merci parce que tu continues d'agir dans nos cœurs. Sois loué, Seigneur. Amen. Alors Benjamin, tu peux lancer le diapo, puis s'il faut, on l'arrêtera. Voilà. Ce matin, si vous avez lu la lettre de nouvelles, Matthieu, il a parlé de l'onction à Béthanie. Et c'est un événement qui est arrivé juste au début de ce qu'on appelle la semaine sainte, c'est-à-dire la semaine qui a précédé la mort de Jésus. Donc, on n'est pas tout à fait encore dans cette semaine sainte. Cet événement aurait eu lieu vendredi. Après, il y a eu le dimanche des rameaux. Et puis après, voilà, ça c'est vraiment juste avant le début de la semaine sainte. Enfin, les rameaux, je crois que c'est le début de la semaine sainte. Mais ça, c'est juste avant. Et en fait, l'idée, c'est... Bon, c'est un événement qui est relaté dans trois évangiles sur quatre. Tu pourras mettre après ça, tu peux laisser l'image. J'ai choisi cette image. Mais il y a des détails qui diffèrent un petit peu dans les évangiles. J'ai relu plein de fois les passages. Il y en a qui disent que c'était au pied, il y en a qui disent que c'était sur la tête, il y en a qui disent que c'était Marie, il y en a qui disent que c'était une femme sans nom, il y en a qui disent que c'était chez Lazare, il y en a qui disent que c'était chez Simon. Voilà, je vous dis tout ça, je ne veux pas qu'on se perde dans les détails, mais ça m'a semblé intéressant de quand même s'arrêter sur cette histoire de l'onction à Béthanie. Pour comme préparer nos cœurs à Pâques et pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de ce qui s'est passé là. Et c'est important de se rappeler que dans le contexte, Jésus, il avait dit plusieurs fois à ses disciples, à ceux qui l'écoutaient, même à ses opposants, qu'est-ce qui allait se passer? Qu'il était venu pour donner sa vie, qu'il allait mourir, que son corps allait être détruit en 3 jours. Il allait ressusciter. Il l'a dit de plein de façons différentes. Mais il faut bien comprendre que nous, on connaît déjà la suite de l'histoire, on sait ce qui s'est passé, mais les personnes qui l'écoutaient, les disciples et les autres, ils ne pouvaient pas réellement saisir ce qui allait se passer. Ils pouvaient pas. Nous, c'est facile, on lit, on sait déjà, on connaît, on a entendu, mais eux, ils ne pouvaient pas vraiment comprendre qu'est-ce qui allait se passer. Et je dis, ils ne pouvaient pas comprendre ce qui allait se passer tant sur le plan naturel, entre guillemets, c'est-à-dire comment ça allait, les événements allaient s'enchaîner, comment il allait mourir, mais aussi sur le plan spirituel, la portée de ce qui allait se passer. Il y avait quelque chose d'insaisissable. Et cet événement, il arrive bien sûr avant tout ça. Et pourtant, Jésus l'avait annoncé, mais je crois que nous non plus, on n'aurait pas pu comprendre pleinement ce qui allait se passer. Et donc, on va lire. Alors, Matthieu, dans la lettre de nouvelles, il avait pris le passage dans Matthieu. Les passages, l'épisode dans Matthieu et Marc sont très similaires. Et puis, il y a celui de Jean qui diffère un petit peu. Et on va commencer par lire celui-là, c'est très court. 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher. Elle le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Judas Iscariot, l'un des disciples de Jésus, celui qui allait le trahir, dit « Tu peux passer la suite. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum ? On aurait pu le donner aux pauvres, au moins, on aurait pu donner aux pauvres au moins 300 deniers. S'il parlait ainsi, ce n'était pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais il était voleur. Et comme c'était lui qui gérait la bourse commune, il gardait pour lui ce qu'on y mettait. Mais Jésus intervint. Laisse-la faire. C'est pour le jour de mon enterrement qu'elle a réservé ce parfum. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous, tandis que moi, vous ne mourrez pas toujours avec vous. » Voilà, ça c'est Jean qui rapporte cet événement. Et puis Marc, on va lire Marc aussi. C'est très court, tu peux passer. Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux. Pendant le repas, une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de nard pur de grande valeur. Elle cassa le col du flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'en indignèrent et murmurèrent entre eux. « Pourquoi gaspiller ainsi ce parfum ? On aurait pu le vendre et en tirer plus de 300 pièces d'argent qu'on aurait donné aux pauvres. » Et ils ne ménagèrent pas leurs reproches à cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la donc tranquille. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est une belle action. Des pauvres, vous en aurez toujours autour de vous et vous pourrez leur faire du bien quand vous le voudrez. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle pouvait. Elle a d'avance embaumé mon corps pour préparer mon enterrement. Vraiment, je vous l'assure, dans le monde entier, partout où l'évangile sera annoncé, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. » Ça, c'est quelque chose aussi que Matthieu dit, qu'on racontera en souvenir de cette femme ce qu'elle vient de faire. Alors, j'avais juste envie de mettre en lumière quelques détails par rapport à ce passage. Au niveau du contexte, je n'ai pas tout relevé, c'est très très riche, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par rapport à ça, on pourrait dire énormément de choses, donc je ne vais pas du tout être exhaustive ce matin. Mais j'avais quand même envie de mettre en lumière quelque chose. Et déjà, c'est une femme. C'est une femme, et dans le contexte dans lequel la scène se passe, les femmes qui approchaient des hommes non mariés, si ce n'était pas des membres de leur famille, c'était quand même très inapproprié d'avoir des relations comme ça, intimes, proches avec eux. Ce qui aurait, à la limite, pu être toléré, c'est comme Marthe, être au service. Bon, je me souviens aussi, ça m'a évoqué ce passage de la femme cananéenne qui dit « Laisse-moi juste récupérer les miettes hein ». Elle aurait pu juste se contenter d'écouter ce qui se passait, d'écouter ce que Jésus enseignait. Et puis, voilà, je prends ce que j'entends, mais c'est tout. Au pire, elle aurait pu peut-être lui poser quelques questions, échanger avec lui, mais même ça, c'était à la limite de l'acceptable. Même si il est dit dans les évangiles qu'il y avait plusieurs femmes qui accompagnaient Jésus. Il n'y avait pas que les disciples qu'on connaît, il y avait quelques femmes aussi. Mais là, elle va plus loin, elle va toucher Jésus. Alors, au pied, à la tête, quand on touche quelqu'un, c'est quand même quelque chose de très intime, qui peut être invasif si on ne connaît pas la personne. Toucher les pieds de quelqu'un, si vous êtes parent, vous allez toucher les pieds de vos enfants. Voilà, peut-être vous prenez soin de vos parents plus âgés, vous allez leur toucher les pieds, votre conjoint. Mais même un ami, je ne sais pas vous, mais on ne va pas forcément aller se toucher les pieds. Et la tête non plus, si on réfléchit, ça reste dans le cercle très très intime, très très proche, ce geste-là. Alors j'ai quand même cherché, parce qu'à l'époque, j'ai appris que deux choses. On pouvait verser de l'huile sur la tête d'un invité, en signe d'honneur et de respect. Donc c'était quand même une pratique de l'époque. Et si vraiment on voulait marquer un honneur, un respect plus profond, on pouvait verser du parfum. Donc c'était quand même un geste, aujourd'hui, nous, dans notre contexte, qui on se dit, mais c'est quand même fou de faire ça. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose qui était courant. Et pareil, le fait de laver les pieds, quand il y avait des invités qui entraient dans la maison, vous savez, qui marchaient en sandales, leurs pieds étaient certainement pleins de poussière, il n'y avait pas de goudron. Les servantes, les serviteurs, lavaient les pieds des invités. Donc c'était une pratique qui se faisait. Et même, les invités avaient le droit de s'essuyer dans les cheveux des esclaves. Donc c'était quelque chose qui se faisait. Même si ça nous choque, c'était quelque chose. Et des esclaves femmes, parce qu'évidemment, on pense qu'à l'époque, voilà, c'était plus, ça concernait plus les femmes qui essuyaient les pieds des invités avec leurs cheveux. Donc, c'était une pratique qui arrivait, mais ce que ça nous dit, c'est que cette femme, que ce soit Marie ou une femme dont on ne connaît pas l'identité, elle est arrivée dans cette attitude-là, dans cette posture-là auprès de Jésus, comme une servante, comme presque une esclave dans ce qu'elle a accompli par ce geste. Alors que, semble-t-il, elle n'avait pas ce rôle-là dans la maison. Il n'est pas dit que c'était une servante, il dit une femme. Et ça nous rappelle aussi un autre épisode, parce que j'ai dit, mais Luc, il ne parle pas de ça, mais Luc, il parle d'un autre épisode où une femme qui menait une vie dissolue, alors ce n'était pas avant la Pâque, c'était pendant le ministère de Jésus, est venue, pareil, dans la maison d'un pharisien, et a lavé, de la même façon, a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, et a lavé ses pieds avec ses larmes et ses cheveux. Donc Luc parle aussi de ce geste-là, mais il semble que c'est un autre épisode, ça ne concerne pas celui-là, mais ça fait quand même écho à cet épisode-là. Et juste un autre détail, les cheveux d'une femme, c'est vraiment un signe de féminité, c'est ce qui fait la fierté d'une femme. Alors, mesdames qui ont les cheveux courts, c'est juste au niveau, je dis ces choses-là, voilà, au niveau culturel, merci. C'est vraiment la symbolique des cheveux d'une femme. C'est quelque chose qui fait la beauté, qui fait la fierté de la femme. Il y a beaucoup, même dans la Bible, on trouve beaucoup de références aux cheveux, voilà, même par rapport au voile, les femmes qui devraient se couvrir la tête. Enfin, je ne vais pas développer là-dessus, mais c'est pour dire que c'est pas, elle n'a pas essuyé dans un chiffon, elle n'a pas essuyé avec un pan de sa robe, elle a essuyé avec ses cheveux, avec quelque chose de noble, avec quelque chose qui la caractérise en tant que femme. Donc, ce n'est pas anodin. Et en fait, donc, là, j'ai choisi de m'arrêter là au niveau des détails que j'ai relevés. Qu'est-ce que ça nous révèle, ce que fait cette femme? Alors d'abord, c'est un geste qu'elle accomplit, c'est un geste prophétique. Tu peux passer, Ben. Alors qu'est-ce que c'est un geste prophétique? C'est-à-dire qu'elle accomplit dans le monde naturel un geste qui a une portée hautement spirituelle. Et c'est là où je rappelle le contexte. Les événements de la mort de Jésus, de la résurrection de Jésus, n'étaient pas encore arrivés. C'était annoncé, mais ce n'était pas encore arrivé. Et en fait, en déversant comme ça le parfum au pied de Jésus ou sur sa tête, en lavant les pieds de Jésus avec ses cheveux, donc Jésus l'explique, elle prépare l'enterrement, l'embaumement de son corps, parce que les corps étaient embaumés de parfum. Enfin, les langes qui entouraient le corps d'un défunt étaient embaumées de parfum. Mais non seulement ça, mais aussi, elle honore la personne de Jésus et de ce qu'il accomplit par sa venue, avant que tout soit accompli. Avant que tout soit accompli. Et c'est en ça que c'est un geste prophétique, c'est-à-dire que ce qui n'est pas encore arrivé, c'est comme si elle préfigure par son geste, ce qui va arriver, ce qui va être accompli. Et ça, c'est la louange. Quand on chante, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu nous aime. Peut-être Peut-être que nos circonstances nous disent le contraire. Peut-être que par quoi on passe nous font croire le contraire. Mais on choisit de déclarer sa parole. On choisit de déclarer ses promesses. Oui, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. C'est dur de dire ça parfois. Selon ce par quoi on passe. C'est dur de dire, mais c'est quoi tes projets de paix? Mais oui, je crois. Seigneur, tu dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Afin de te donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Et ça, c'est une louange extravagante qu'elle déverse. Elle donne ce qu'elle a de plus précieux. Dans l'épisode de Luc, il est dit que le parfum qu'elle a versé, ça équivalait probablement à un an de salaire. C'était quelque chose de très, très précieux. Et le parfum, Jean nous dit que l'odeur du parfum a rempli toute la pièce. Et on a été nager avec Maëlle vendredi. On va nager, on essaie de faire notre sport. Et on faisait des allers-retours dans l'eau. Et puis, à un moment, j'arrive près d'elle et puis je dis « Ah, ça sent super bon ton parfum !» Elle me dit « Mais tu sens mon parfum ?» Et je vous assure que quand j'arrivais, je sentais son parfum, son odeur. Même dans l'eau chlorée de la piscine, je sentais. Et c'est ça, en fait, le parfum, ça dégage une odeur même à la piscine. C'est fou, on ne penserait pas, mais si, c'est possible. Et en fait, sa louange, hein, la louange est souvent comparée à un parfum, on l'a chantée ce matin dans plusieurs chants, elle va déborder, l'odeur va se répandre tout autour, dans toute la pièce, on pouvait sentir l'odeur de sa louange. Et il y a un verset dans 2 Corinthiens 2, verset 14, qui dit que nous sommes le parfum de Christ, nous sommes sa bonne odeur. Nous dégageons son parfum. Est-ce que vous êtes conscient que vous dégagez une odeur? Une odeur spirituelle, mais moi, ça m'est déjà arrivé même de sentir des odeurs et de sentir le Saint-Esprit qui me parle à travers des odeurs. Ça, c'est le surnaturel de Dieu. Mais on dégage une odeur. On amène une atmosphère avec nous. On amène quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Ça peut être une odeur de vie, une odeur de mort. Ça aussi, j'ai plus la référence du verset, mais je l'ai lu, je crois que c'est dans la suite de Corinthiens. Soit une odeur de vie, soit une odeur de mort. On dégage une odeur. Et la louange de cette femme, eh ben, ça a dégagé une odeur qui a rempli toute la pièce. Et vous savez, il y a plusieurs choses qui me venaient. Il y avait aussi le fait qu'elle a... Elle a pour pouvoir répandre... Comme ça, ce parfum, elle a dû casser le vase. Alors, dans certains versets, il y a écrit « elle a cassé le col ». On ne sait pas exactement comment elle s'y est pris, mais il y a quelque chose qui a dû être brisé, qui a dû être ouvert pour qu'elle puisse le répandre. Et souvent, Dieu nous compare à des vases. Dans la Bible, il y a plein de références. Dieu est le potier, nous sommes des vases. Et elle a dû casser. Elle a dû casser l'enveloppe pour pouvoir déverser ce qu'il y avait à l'intérieur, déverser sa vie. Et vous savez ce qu'il a poussé à faire ça, c'est qu'elle était attirée par Jésus. C'est l'amour. Tout à l'heure, c'est Jonathan qui parlait du regard de Jésus, qui était certainement un regard perçant, un regard qui pénétrait les cœurs, mais qui était rempli d'amour. Et cet amour-là, ça l'a attirée à Jésus. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui l'a attiré. C'est pas le jugement, c'est pas la peur d'être dévoilée. On ne sait pas cette femme, il n'y a pas de détails sur qui elle était, en tout cas dans l'onction de Béthanie, mais c'est l'amour de Jésus qui l'a attiré, Et elle a dépassé ce qu'on attendait d'elle. Elle a dépassé ce qu'on attendait d'elle en tant que femme. Peut-être c'était rester dans son coin, se taire, servir. Rester dans la cuisine, préparer les choses pour le festin, elle a dépassé ça. Elle a dépassé ce qu'on attendait d'elle. Oui, il faut vendre ce parfum pour garder des sous pour les donner aux pauvres. Elle a dépassé le regard des autres. Elle a dépassé ce qu'on attendait d'elle, la pression sociale, parce qu'elle était tellement attirée à Jésus. Et en ça, elle va à l'encontre. Elle va à l'encontre de ce qui est convenable, de ce qui est acceptable. Et en ça, elle manifeste le royaume de Dieu. Vous savez, Jésus, il est tellement, quelque part, provocateur. Il vient et prend toutes nos idées reçues sur ce qu'on doit faire, comment ça doit être. Je dois prier plus, je dois lire ma Bible plus, je dois aller plus à l'église. Parce que je n'ai pas été assez à l'église ces derniers temps. J'étais absente la semaine dernière. Jésus prend tout ça et puis renverse tout ça. Pas forcément des mauvaises choses. Hein. Je ne vous dis pas de ne pas prier, pas lire votre Bible, pas aller à l'église. Mais Jésus vient renverser tout ça. Il vient renverser l'ordre des choses. Et ça, c'est les réalités du royaume de Dieu. Et il nous a dit, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme des petits enfants. Et cette femme-là, elle s'est comportée comme un petit enfant. Un enfant, il agit pas avec des arrière-pensées, en tout cas quand ils sont petits-petits. Il ne va pas se dire « je vais faire ça pour avoir ça, je vais faire ça pour paraître bien ». Il est lui-même, il est « voilà, là, j'étais dans la louange comme ça, on va me dire « j'ai envie de faire pipi ». Il ne va pas avoir de filtre, tous les filtres que nous, on peut se mettre. Et Jésus nous demande d'être comme ces petits-enfants, comme cette femme qui va manifester ce cœur confiant. Et en fait, elle révèle le contraste entre le cœur des pharisiens, le cœur alors là, dans ce passage-là, il n'est pas question des pharisiens, mais je dis pharisiens au sens de notre religiosité, de qu'est-ce qui est convenable, qu'est-ce qui est attendu, et puis le cœur de Dieu qui est manifesté par Jésus, parce que Jésus, il est venu révéler le Père. Il a dit « Si vous avez vu le Père, vous m'avez vu ». Tu peux passer celle d'avant, c'était peut-être. Voilà, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Donc Jésus, il est venu révéler ce cœur de Père. Et en fait, on voit le contraste entre nous, on pense, ah ben il faut faire ça. Il faut faire ça. Et puis si j'ai bien fait ça, alors peut-être je vais pouvoir aller auprès de Jésus. Et Jésus, il dit non, viens. Et le cœur du Père, il est comment ? Il est disponible. Jésus, là, il est disponible. Il est aimant, il est accueillant. Il attire et il libère. Il la libère. Il ne lui dit pas non. Non, il l'accueille pleinement dans ce qu'elle veut lui offrir. Et alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'est-ce que Dieu nous dit au travers d'elle ? Eh bien, que Dieu, il cherche nos cœurs entiers. Et on peut se poser la question, qu'est-ce qui empêche Dieu d'avoir accès à mon cœur ? Et vous savez, Dieu n'est pas impressionné par toutes les couches qu'on peut mettre, toutes les enveloppes qu'on peut mettre autour de notre cœur, qu'on a ajoutées pour cacher nos faiblesses. Et ça, ça nous concerne tous, qu'on soit chrétien ou pas en fait. Parce qu'on met tous des couches pour nous protéger. Qu'on a eu mal. Est-ce que je cherche à impressionner Dieu en étant très spirituel ? Est-ce que je cherche à essayer d'égaler ce qu'il a fait pour moi en le remboursant par mes efforts ? Parfois, on peut être là-dedans. Tout ce que je dis, je m'inclus dedans. Est-ce que je cherche à le manipuler, consciemment ou pas, pour obtenir ses faveurs ? Est-ce que je me cache parce que je me sens coupable ou parce que je me sens indigne de son amour ? Est-ce que j'attends encore un peu parce que je n'ai pas assez fait ? Il faut que je fasse encore. Et puis une fois que j'aurai fait un peu plus, alors peut-être je vais essayer d'aller le voir. Est-ce que je cherche à lui prouver ma valeur ? À lui prouver que je suis digne de son amour ? Est-ce que j'ai peur de lui et de ce qu'il pense de moi ? C'est dur parfois de dire à Dieu « qu'est-ce que tu penses de moi ?» Peut-être que j'ai peur d'entendre ce qu'il va dire, parce que moi, j'aime pas ce que je pense de moi. Et en fait, toutes ces couches qu'on ajoute pour paraître, pour nous cacher, pour nous grandir, pour nous justifier. En fait, c'est des fausses sécurités qui vont nous couper de lui et qui vont nous empêcher de recevoir pleinement son amour. C'est pas lui qui l'aimait. C'est nous qui avons peur. Et ça, c'est un peu l'histoire qui se répète, vous savez, Adam et Ève, quand ils ont choisi de se couper de l'amour de Dieu, ils ont pris une feuille de figuier pour se cacher. Dieu, même dans ça, il a de l'humour, il ne les a pas laissés comme ça, il leur a donné des peaux de bête. Il a eu pitié dans son amour. Avec leur feuille de figuier, ils n'allaient pas aller loin. Mais en fait, c'est nous, on est pareil hein, avec nos feuilles de figuier. Moi, cette semaine, j'en avais des feuilles de figuier. Et ça peut, ça, en fait, ça nous fait peur de lâcher tout ça, parce qu'on connaît finalement et on a appris à vivre avec, on a appris à faire avec. Et c'est dur parfois de parce qu'on a peur, d'être nu, on a peur de qu'on nous voit, que Dieu nous voit tel que nous sommes. Mais vous savez quoi ? C'est ressorti aussi dans un chant, je crois que c'était dans Majesté. Il nous couvre par son sang. On ne va pas être exposé comme dans, à l'époque des expositions universelles où ils ramenaient des animaux, ils les montraient à tout le monde, même des hommes et des femmes qui venaient d'autres cultures pour les exposer. Non. C'est son sang qui nous couvre, sa grâce qui nous couvre. Mais il nous veut dépouiller, comme cette femme qui est venue directement au pied de Jésus. Et en fait, vous savez, l'histoire de depuis la création du monde, c'est que Dieu a voulu. C'est une histoire de relation. C'est pour ça qu'il nous a créés. De relation d'amour entre Dieu, qui est Père, Fils, Esprit. Il est les trois à la fois. Il est venu, il s'est fait chair, il est venu sous la forme d'un homme par Jésus. Mais il était en Jésus. Il était là, sur terre. Et par son Esprit, il vit en nous. Et il nous a créés pour son plaisir. Il nous a créés parce qu'il avait envie. Et oui, il nous a créés parce qu'il avait envie. Ça aussi, on l'a chanté. On est créés pour son plaisir. Waouh ! Parfois, nous, on n'a pas forcément ce regard-là. Mais pourtant, on est nés de la volonté de Dieu. Parce qu'il nous désirait. Peut-être pas le cas avec nos parents naturels, peut-être qu'on n'était pas désirés. Peut-être qu'on était une surprise, on n'était pas prévu, mais pour Dieu, on était prévu. On était attendu. On était attendu. Et vous savez, Dieu, c'est un Père qui a les bras ouverts et qui nous attend. Il nous accueille, il est patient, il est aimant, il est bienveillant, il est bon. Il nous accueille tel que nous sommes. Comme Jésus qui a accueilli, qui a reçu cette femme telle qu'elle était, avec son offrande. Et alors que dans quelques semaines, on va célébrer Pâques. Pâques, c'est quoi ? C'est Jésus qui s'est approché de nous. Jésus qui est venu jusqu'à nous. Dieu qui est venu jusqu'à nous à travers Jésus pour restaurer cette relation. Et Jésus, il a dit, tout est accompli. Il a tout fait. Il a payé le prix. Il est mort à notre place. Et tout est accompli. Et en fait, j'avais vraiment cette image d'une porte qui est devant chacun d'entre nous. Et Jésus, il est là, il se tient à la porte. Et il attend. Et en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'amour de Dieu, il nous laisse libres. Il ne va pas forcer la porte. Et vous savez, j'étais frappée, je relisais la parabole du fils prodigue. Le fils, quand il est parti, et moi je me mets à la place du père en tant que parent, en tant que maman, il devait se douter que son fils il allait partir et dilapider l'héritage, il n'avait pas les meilleures intentions du monde, mais il l'a laissé faire. Je me dis, mais est-ce que moi, je laisserais ma fille, si elle me disait, vas-y, donne-moi tout, toute ma part, donne-moi des sous, maman, puis je vais aller faire ma vie, et puis je sais qu'elle va se planter. Puis quand il était dans la porcherie, ah ben il était... Dieu l'attendait, mais il l'a laissé libre. Et c'est ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Il nous laisse libre, mais il nous attend, il nous guette.